Bien, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonsoir, chère madame, tout particulièrement. Bonsoir, Michel El Castillo. Je ne sais pas s'il est utile de vous dire, mais enfin, oui, à quel point Bordeaux est content de vous retrouver. D'autant que vous allez peut-être le dire tout à l'heure, juste après, vous venez de me dire des choses aimables sur Bordeaux, et sans doute sur les Bordelais aussi. Et puis, est-il permis aussi de vous dire à quel point c'est chaque fois pour moi une joie de reprendre avec vous une conversation qui a commencé, mon Dieu, il y a longtemps, il y a très longtemps, qui se poursuit au fil des ans, soit de manière privée, soit de manière publique, et toujours pour ce qui me concerne, avec un considérable plaisir. Donc, bienvenue, Simon.
Merci.
Alors oui, dites-le, vous avez trouvé que Bordeaux était une belle ville, bon.
Oh non, c'est plus que ça, hein. Je la connais depuis des années, je suis venu tellement souvent, mais je trouve qu'elle est devenue splendide, vraiment splendide, c'est vraiment une des plus belles villes maintenant que je connaisse, hein. C'est, tout est mis en valeur, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est, en plus, bon, il y a la lumière aujourd'hui, hein, mais c'est splendide, hein, je trouve, pour moi... C'est certainement l'une des plus belles villes du pays.
Bon, voilà, c'est ce que disait Stendhal, et quelques siècles après, vous confirmez. Alors, nous allons parler d'un gros livre qui s'appelle Mamita. C'est un roman. Et la dernière fois, je ne sais pas si nous en avons parlé en public, je ne me rappelle pas, mais la dernière fois que j'ai fait, j'ai eu le plaisir de... comme on dit dans le jargon des critiques littéraires, de chroniquer un de vos livres. Et c'était un ouvrage qui s'appelait, un très gros ouvrage aussi, qui s'appelait Le Temps de Franco. Et cet ouvrage qui a été très favorablement accueilli par la presse a suscité ici ou là quelques réactions. Figurez-vous que juste avant de venir, là, j'ai regardé, j'ai consulté l'article Michel El Castillo sur Wikipédia. Évidemment, je n'aurais jamais fait cela, étant donné que j'en sais autant que Wikipédia. Mais j'ai découvert dans Wikipédia que les réactions négatives qu'avait suscité cet ouvrage vous avaient plongé dans un silence, un état de blessure. Et au moment où l'article de Wikipédia est rédigé, dont on espère qu'il va sortir. Alors, oui, il en est sorti, mais est-ce vrai?
Alors, c'est drôle parce que les deux remarques, les deux questions, si questions il y a, se rejoignent. Quelqu'un a dû lire ça, puisqu'on m'en a parlé il y a très peu de temps. Moi, je n'ai pas lu, hein, je ne consulte pas Wikipédia, je ne consulte pas surtout les trucs me concernent. Mais c'est absolument faux. C'est vrai que j'étais plongé dans un silence dans mon blog et dans mon site très grand, mais qui n'avait rien à voir avec tout ça. C'est que j'étais dans la rédaction de ce roman et que ça a été une rédaction tellement pénible et tellement douloureuse que j'étais effectivement au bord de la dépression. Mais c'était ce livre qui était responsable, ouais. Pas du tout.
Pas Franco.
Pas Franco, non, pas du tout, d'autant que cette controverse qui venait de certains milieux que je connais bien, porte sur des choses absurdes parce que... je ne disais rien que ce que je pense très profondément, c'est-à-dire que une dictature militaire, c'est toujours absurde, c'est toujours mesquin, et puis c'est cruel, et c'est absurde, mais que ce n'est pas la peine d'en rajouter. Je veux dire, un dictateur militaire, c'est un dictateur militaire, point. C'est pas la peine de faire d'autres extrapolations là-dessus, voilà.
Bon, alors le silence, c'était un silence consacré à vous. Qui favorisait la création, qui nourrissait la création. Et donc, Mamita. Alors, Mamita, c'est un, C'est un roman. Le temps de Franco, c'était pas un roman.
Non, non, pas du tout.
Quand
non.
vous écrivez sur Colette, il ne s'agit pas de roman.
Non, non, pas du tout.
Alors, Mon frère l'idiot sur Dostoïevski, ça, c'est plus ambigu comme genre, mais enfin, c'est pas non plus
non.
un roman. Et là, bon, ce livre se donne comme roman. Enfin, je n'ai pas rêvé. Oui, il fallait un roman, oui. Est-ce que c'est très différent d'écrire une considérable étude biographique comme celle qui a été et historique comme celle qui a été consacrée à Franco, d'écrire sur Colette, d'écrire des ouvrages alors qui ont un caractère autobiographique marqué comme Rue des Archives ou Né d'un père français en fait, hein, et d'écrire une fiction. Et en tout cas, ça n'a pas l'air plus facile, puisque vous venez de nous dire que ce livre était né dans la douleur.
Oui, c'était plus que de la douleur. Ce sont des mots un peu galvaudés, si vous voulez. Quand un écrivain parle généralement de ce genre de choses, on croit toujours qu'il y a une part littéraire. Non, non, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'avançais, j'ai l'écrit d'une manière très très proche de mon éditeur Claude Durand, qui le lisait pratiquement chapitre par chapitre, et qui, vers le milieu du livre, a dû m'écrire 3 ou 4 mails très angoissés en disant « Mon Dieu, j'ai peur que tu coules dans la dépression avec ça, fais attention à toi, écris calmement, ne précipite rien, etc. » Mais c'est vrai que c'était très très pénible. Le processus d'écriture était prévu, pas pour des raisons que ça. Ça dit, pour répondre à la question évidente là-dedans, roman, fiction, bien sûr, le personnage principal est un pianiste virtuose concertiste qui parcourt le monde entier en donnant des concerts. Bon, je ne suis pas concertiste, je ne parcours pas le monde entier en donnant des concerts, donc il se retire, enfin il va vivre dans une propriété qu'il possède dans le Vermont, aux États-Unis, dans l'Est des États-Unis. Je n'ai aucune propriété, ni dans le Vermont, ni ailleurs aux États-Unis. Je connais l'État parce que je l'ai parcouru, et je connais un peu la région, mais je n'ai pas dans tout. Hein. Les personnages qui comptent le plus dans le livre, c'est-à-dire Sarah et Tim, ne sont pas dans ma vie et n'ont jamais été. Donc, c'est l'ossature, la musique, l'âge, tout ça, c'est évidemment le roman, hein, l'enveloppe du roman. Mais à l'intérieur de ce récit, à l'intérieur de cette histoire, évidemment, remontent des souvenirs chez le personnage, très très fort, et d'autant plus prégnant et d'autant plus fort que c'est un homme âgé, et qu'il suffit que vous me regardiez pour vous rendre compte qu'évidemment je ne suis pas dans la prime jeunesse. Donc il y a ce point-là, il y a la vieillesse, il y a le temps qui passe, il y a les souvenirs qui remontent, il y a la mémoire du passé. Donc si vous voulez, comme toujours un roman, vous connaissez bien la formule de Stendhal, hein, un miroir qu'on promène le long du chemin, mais un miroir, ça inverse la vie, hein, comme ça inverse nos images. Et donc c'est comme un jeune miroir, effectivement.
Alors on va revenir sur certains points de ce que vous venez de dire. D'abord, les choses qui paraissent moins importantes sans doute que d'autres. Le personnage principal est en effet un pianiste. Alors, il n'est pas écrivain. Il est pianiste, un pianiste très célèbre, et à la notoriété considérable, qui, en effet, parcourt le monde, mais qui commence à être âgé, fatigué, qui a perdu une partie de l'agilité de son toucher, mais qui on va peut-être y revenir, qui compense cela par la profondeur de plus en plus sensible de son jeu. Pourquoi avez-vous choisi un pianiste plutôt qu'un peintre ou qu'un chanteur d'opéra ?
J'ai dit souvent, je l'ai écrit souvent, je l'ai dit que ça sonne comme une provocation, mais dans ma bouche, ce n'était pas une provocation, c'était assez vrai, que j'étais né sous un piano. Et c'est vrai que depuis l'âge de 1 an, 2 ans, j'ai passé des heures et des heures sous un Steinway dans un salon madrilène, et que vers 3 ans, j'ai commencé à toucher le piano, que je vivais bercé, donc, si vous voulez, la musique...
C'était chez votre grand-mère, ça va?
Oui, c'était chez ma grand-mère, et c'était ma mère qui en jouait le plus souvent. Et donc, si vous voulez, la musique enveloppait ma vie depuis la toute petite enfance, pratiquement. J'ai aucun souvenir qui ne soit pas lié au piano, même des souvenirs de guerre très très durs, par exemple les premiers bombardements aériens sur Madrid. Ma mère jouait parce qu'elle détestait descendre dans la cave et dans le souterrain, qu'elle disait que autant mourir au grand air plutôt qu'étouffer dans une cave. Et elle jouait dans... Et donc tous mes souvenirs étaient enveloppés de musique. Donc il était naturel pour moi presque de parler musique, d'autant que ça occupait une grande partie de ma vie, que j'aurais probablement fait une vie de pianiste si la Deuxième Guerre mondiale, si les hasards de la vie n'avaient fait que j'ai pas pu, si vous voulez. Vous pouvez amener des livres et lire et obtenir des livres dans une baraque d'un camp, parce qu'un livre, ça passe toujours. On pouvait difficilement faire entrer un piano à queue dans une baraque, hein. C'est pas tout à fait facile. Donc j'étais obligé de renoncer un peu à la musique. Et c'était pas un choix arbitraire pour moi, c'était pas plus que l'enregistrement qu'il fait. Ce pianiste a été... ses grands enregistrements ont été l'œuvre complète de Bach. Il n'aimait pas beaucoup Chopin, il avait une sorte d'éloignement pour le côté sentimental et pathétique et qu'il n'aimait pas. Et puis, il va s'en rapprocher beaucoup autour de l'exil, quand il va comprendre et sentir, surtout intérieurement, que c'est la musique d'un exilé, exilé de son enfance, exilé de son pays, exilé de sa santé parce qu'il est malade et pas très important, exilé de toutes les formes, y compris de l'amour, et que, en fait, il trouvera un moyen de l'interpréter, je dirais, fortement et virilement, si vous voulez, de l'arracher aux alanguissements, aux fadeurs. Vous savez, moi-même, dans ma jeunesse, enfin, je ne supportais plus Chopin. Il n'y avait pas un salon de province espagnole, il n'y avait pas une jeune fille anémique qui vous assommait d'un nocturne qu'elle massacrait avec des alanguissements, parce que c'était la musique salonarde par excellence. Pas bon, c'était devenu comme ça, mais c'était... Et donc, ça... Tous ces effets appuyés, les jeux de pédales, la lenteur des mouvements sollicités, une sorte de... Et puis, il y a derrière tout ça, c'est quand même quelqu'un de très fort. Je veux dire que c'était pas quelqu'un de mièvre ni alangui. Hein. Et donc, voilà.
Oui. Ce que vous dites de Chopin, enfin, ce que... Le personnage que Xavier pense de Chopin, c'était l'année Chopin, d'ailleurs.
Oui, mais ça, je ne le savais pas quand j'écrivais, c'est drôle, j'ai découvert que c'était le centenaire, et que mais ça, je l'ignorais tout à fait. Enfin, je n'avais pas fait attention, on va dire.
Correspond tout à fait à la vision que l'on a maintenant de Chopin. On est revenu du Chopin alangui, mièvre, ouais. Du Chopin pour jeune fille, la chartreuse de Valdemossa avec la goutte d'eau.
Ah oui, c'est-à-dire que cette dame, ben, je suis très injuste, vous avez le droit de m'écorcher après notre rencontre, ça ne me gênera pas beaucoup pour le peu que me reste comme vous. Mais s'il y a une personne qui m'a toujours horripilé dans la vie, c'est Georges Sand. Et alors, il y a une manie avec Chopin. C'est qu'elle est tout le temps dans une espèce de grandiloquent, le divin artiste, le poète de nana, le grand poète qui s'assied. C'est exaspérant. Et alors elle en a rajouté dans la tuberculose, dans la fièvre, la nuit où il se levait pour s'asseoir au piano. C'est insupportable. D'abord parce que c'est faux. Et il arrive à Valdemossa, enfin il arrive au Baléares, avec sous bras une seule partition qui est le clavecin bien tempéré. C'est-à-dire qu'il arrive avec Bach, qui a été vraiment son obsession toute sa vie, le fondement même de la musique. Il compose relativement peu en baléa, d'abord parce qu'ils sont vomis, un homme comme ça, un peu maladif, ils ont, les habitants prennent une peur terrible de la tuberculose, de la contagion, donc on les tient à l'écart, on ne veut même pas leur faire le ménage. Une femme qui a des allures, mettons, un petit peu viriles par moment, ils ne sont pas mariés, ce qui en Espagne, en tout cas, bon. Ils sont rejetés littéralement et d'une solitude effroyable moralement. Il a détesté cet endroit. D'ailleurs, quand il rentre à Marseille, il est pratiquement dans un état de santé tellement déplorable qu'il doit rester près d'un mois dans un hôtel pour récupérer un peu de force. Mais ce voyage au Valais a été une catastrophe. Et donc, toute la littérature qu'on a pu faire autour me paraît très... Ouais, mais ça a été un moment, en revanche, de grande étude pour lui, de grande intensité, parce que c'est là qu'il creuse le plus la musique de Bach.
Ce pianiste, dont vous venez de rappeler qu'il éprouve un profond, intime sentiment d'exil, donc choisit le Vermont. Vous venez de nous dire que vous y êtes allé, vous avez trouvé ça joli. Il y a quand même une raison qui fait que vous avez décidé, n'est-ce pas, qu'il allait acheter une maison et s'isoler dans cette région-là des États-Unis. C'est près de Boston.
Près, ouais. Oui, c'est à 2-3 heures de voiture.
Boston, comme on dit à Bordeaux. Boston.
Bon, Boston, si vous voulez. Et le... Oui, mais c'est un état uniquement rural, une sorte de conservatoire, si vous voulez, le Vermont, de forêts, de bois, de rivières préservées. C'est une sorte de... C'est le seul état aux États-Unis où soit interdite les publicités extérieures sur les routes. Il n'y a pas un panneau, il n'y a pas machin. C'est vraiment très américain. Du coup, ça a été peuplé beaucoup de résidents secondaires, de New-Yorkais, de riches, beaucoup d'artistes, etc. Et puis c'est un état d'une grande tradition littéraire. Hein. C'était jusqu'à Solzhenitsyn, c'est là qu'il vivait, à la frontière canadienne du Vermont. Donc, si vous voulez, c'est un état dont il est difficile de... Déjà, les États-Unis, pour Xavier, pour le personnage, sont, mettons... un peu difficile à comprendre par moment. Il est profondément européen et l'Amérique le déroute par beaucoup de choses. Il y a des choses qu'il ne comprend pas très bien. Il y est en pleine campagne présidentielle, oui. Vraiment entre Obama et dans les primaires entre Obama et Clinton. Il ne comprend absolument rien au système de primaire, pas plus que moi toujours. On me l'a expliqué 50 fois aux États-Unis, j'ai jamais compris comment les grands électeurs élisent qui, combien. Je n'arrive pas à m'y faire. Je comprenais pas tout ça, mais en revanche, ce que j'ai compris quand je suis allé tout de suite après l'élection d'Obama, c'était, j'avais un souvenir très net, je vous parle d'il y a 30 ans, hein. Et j'avais pas réservé de chambre d'hôtel à New York, et donc je suis allé dans plusieurs hôtels pour un truc, hein, et on m'a refusé partout, parce qu'on croyait que j'étais mexicain, comme j'avais le timbre, etc. C'est-à-dire que la majorité des hôtels Sainte-Ville acceptaient non seulement n'acceptaient pas les Noirs, mais pas les Latinos non plus, pas les Juifs évidemment. Et donc je connus ce pays dans un racisme, mais virulent, hein, vraiment virulent. Et le fait que ce même pays, ce même peuple choisisse un président métissé et une première lady, qui descendent d'une famille d'esclaves, un truc. C'était un choc. D'ailleurs, les Européens n'ont jamais rien compris. Ça, c'est le côté impondérable américain. C'est que vous pouvez vous heurter au pire, et puis, un seul coup au meilleur, autour toujours de cet élan de liberté qu'il y a dans ce pays. C'est un pays qui a du mal avec la notion d'égalité, d'où d'ailleurs qu'ils ne comprennent pas très bien les Français. Mais qui, en revanche, pour la liberté, est toujours à cheval sur le truc. Hein.
Alors, justement, c'est un peu comme tout dans le livre. Et on avance vers le cœur du livre, mais enfin, on garde ça pour la fin. Mais c'est un peu cette histoire d'Obama d'Hillary Clinton, c'est un peu ambigu, parce que justement dans cette maison très solitaire dans le Vermont, et en plus il y a son atelier qui est encore plus isolé, ça, il a une servante qui s'appelle Jenny. Et qui est ou noir ou métisse,
noir.
Et alors elle n'est pas du tout favorable à Obama, et elle dit que nous les noirs, on nous oblige à voter pour un noir, c'est du racisme.
Oui, parce qu'il y a un jeune homme qui insiste beaucoup en lui disant vous êtes noir, vous ne pouvez pas quand même ne pas voter pour Obama. Elle dit mais ça c'est plus humain que raciste. Il y avait beaucoup de noirs, j'en ai connu, qui sont encore maintenant très républicains, hein, très, très hostiles aux démocrates, très pieux, des noirs très pieux généralement. C'est aux États-Unis, les notions droite-gauche ne fonctionnent pas comme ici. Hein, ça se joue sur d'autres critères. Jenny, elle est contre toutes ces innovations diaboliques, l'avortement, les mariages gays. Alors là, elle sauterait par la fenêtre. Donc, elle est républicaine, si vous voulez. Et puis, elle se méfie toujours des démocrates parce que les démocrates ont une fâcheuse réputation aux États-Unis pour beaucoup d'Américains de dépenser de l'argent. De dépenser, de faire des trucs, et puis après, il faut payer la note. Et ils n'aiment pas ça, les Américains. Ils aiment bien savoir qui coûte quoi et comment ça. Alors, dès qu'on commence les grandes machines d'État, des bureaucraties, des administrations, et puis comme ça, ils sont très, très hostiles. Alors, on se trouve avec des paradoxes parfois très grands. Oui. Il peut arriver qu'un noir soit républicain et que un blondinet de l'autre bout de l'État soit un fanatique d'Obama. Le pays n'était pas divisé autour de ces critères. Il l'était beaucoup dans les âges. Une grande majorité des jeunes que je voyais aux États-Unis étaient fanatiques pendant les primaires et la campagne, si vous voulez. Ils avaient d'ailleurs tissé un réseau par Internet absolument fantastique, si vous voulez, qu'on ferait une campagne d'une efficacité, d'une modernité, etc. Il y avait aussi des clivages de villes, de régions et d'États. New York était très pro-Hillary Clinton, d'abord parce que c'était une femme, ensuite parce que c'est une famille aisée. C'est comme dirait un de nos politiciens, c'était de l'establishment. Elle était Clinton, c'était bien vu. Alors que ce noir dont on savait rien depuis longtemps, qui apparaissait un seul coup comme ça, qui parlait très bien, qui était... Hein, donc les clivages qui existaient ne correspondaient pas à ce que nous en Europe généralement on a tendance à considérer comme blanc, noir, gauche, droite, etc. Mais très à l'américaine autour de parfois de notions qui nous paraissent très étranges, si vous voulez. Par exemple, il nous paraît évident que dans un pays d'une telle richesse, d'une telle puissance, on ne peut pas laisser des dizaines de millions de gens sans aucun droit sur la santé, la maladie. Les Américains ne voient pas ça du tout comme ça. Ce qu'ils voient, c'est qu'est-ce que c'est que cette histoire de vouloir créer une grosse administration, de dépenser de l'argent, on va piquer des impôts sous prétexte d'égalité, etc. Ça leur érige la peau, littéralement. Et alors, vous avez des dialogues parfois un peu difficiles avec... Elle-même, Jenny, qui est noire, dit à un moment donné, moi, j'aime pas les démocrates parce que je me méfie de l'État. Je me méfie de l'État. L'État, dans leur tête, étant toujours l'État fédéral. C'est très curieux. Vous êtes dans un État, et alors, ils connaissent le shérif, ils connaissent le juge, ils connaissent leur gouverneur, ils connaissent les associations auxquelles ils font partie, ils sont tous dans des associations, dans des trucs, hein. L'État fédéral, c'est toujours louche, il ne pense qu'à vous piquer de l'argent et à créer de nouveaux impôts, mais il y a sûrement un guille sous roche là-dedans, si vous voulez. C'est pas... Alors que la France a été faite par l'État central, si vous voulez, par la monarchie, par l'État central, les États-Unis se sont faites par des vagues d'immigrants autour des notions religieuses, si vous voulez. Ils arrivaient là-dedans, à l'intérieur d'un monde de sectes religieuses, chassées d'Angleterre, chassées d'Écosse, chassées de Chypre. Et donc, il est resté un côté communauté très, très forte, de communauté, mais étroite et petite. Ils ont beaucoup de mal, hein, si vous voulez, quand on parle... Qu'est-ce qui intéresse, par exemple, les Européens? La guerre en Afghanistan, la guerre en Irak, le machin, ça. Les Américains, ça les intéresse, mais simplement aussi pour le coût que ça coûte et pour que les boys ne laissent pas la peau pour rien. Mais c'est pas un grand débat, je dirais, à la française sur l'idéologie, etc. C'est très pratique. C'est chaque cadavre de boy qui tombe là-dedans, ça sert à quoi? Est-ce qu'il fallait y aller? Est-ce qu'il fallait pas y aller? Combien ça coûte? Combien de vie ça va nous coûter? Oui ou non? Et là, le débat commence entre eux très fort. Mais c'est rarement... Enfin, j'ai dû... Vous comprenez ce que j'essaye de dire. C'est... Je crois que les Européens ont beaucoup de mal à les comprendre, et eux, tout autant de mal à les comprendre. Par exemple, si vous voulez, ils sont persuadés, combien de fois j'ai entendu ça, que tous les Français sont des espèces de bestioles gonflées de politique et d'idéologie, et que le Français ne peut pas ouvrir la bouche en vous assommant un discours politique, et que les Français savent tout, et qu'ils vont... Et vice-versa, en France, c'est... C'est tout juste si c'est pas des brutes ou des abrutis, ils sont tous armés, ils s'entretuent, il y a une violence effroyable, ce qui n'est pas faux, il y a beaucoup de violence aux États-Unis. Il y en a-t-elle vraiment beaucoup plus? Mais même ces choses qui nous choquent tellement, le fait qu'ils soient armés, pour eux c'est un droit constitutionnel des petites communautés qui s'armaient pour se défendre et pour avancer, si vous voulez. Et donc, renoncer à l'arme, c'est renoncer à ce qui a été fondateur dans l'État, enfin, dans les États.
Alors, on est parti de Jenny, oui. Du personnage de Jenny, la servante noire, qui est, en effet, qui ne veut pas voter pour Obama. Et ça choque beaucoup, avez-vous dit, un jeune homme. Alors oui, le personnage du jeune homme, il est très important dans le roman. Il s'appelle Tim. Il est roux. Il est gay.
Oui.
Et il a fait des études dans une université américaine, ressemblant beaucoup aux universités anglaises. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à un personnage de Julien Green, puisque vous vous rappelez sans doute, le personnage de Moira est un étudiant roux, et ça revient souvent. Et puis Green a fait, c'est pas dans cette région-là des États-Unis, mais a fait une partie de ses études dans une université américaine néoclassique, etc., qui ressemble à celle qui est décrite dans le livre, puisque Tim emmène le pianiste visiter l'université où il a étudié. Vous avez pensé à Julien Green ou pas du tout?
Non, pas du tout. Non. C'est un personnage d'abord qui a fait irruption dans le roman. Je dirais pas contre mon gré, mais enfin, je n'avais pas pensé à lui. Il m'a agacé un tout petit peu. Et une grande partie du roman, au début, vous avez vu, le personnage freine un peu des quatre fers en disant, pour essayer de le maintenir à distance. Mais c'est vrai que Tim. Au début, le narrateur Xavier le traite et le qualifie de roux avant de se reprendre à plusieurs reprises en disant non, il est d'un blond acajou au reflet vaguement acajou au soleil d'un truc qui n'est pas vraiment roux. Il est fils d'un pasteur, ce qui est et d'un pasteur de la côte est. C'est très important ça aux États-Unis parce que il fait partie de ses descendants. Je dirais des premiers arrivés, chassés donc d'Angleterre par l'Église d'Angleterre, et ces puritains ont gardé toute la ville de Boston en porte l'empreinte, si vous voulez. C'est quelque chose de très intérieur et très clair. Ce pasteur a été avec lui, non pas sévère, mais disons peu loquace et peu ouvert. Et puis surtout, il m'a été traumatisé par une idée et une notion à laquelle non seulement il a cru, comme il dit, mais qui est rentrée en lui-même, qui est si dure pourtant, j'en ai souvent parlé avec eux, mais si dure pourtant de jeunes protestants, mon aîné, qui est la prédestination. Si vous voulez, son père l'a persuadé que la grâce est accordée, mais que ni les œuvres, ni le mérite ne peuvent l'atteindre. Au fond, et l'idée pour lui que Dieu ait pu vouer...
C'est le jansénisme.
C'est un jansénisme protestant.
Oui, oui.
mais qui, sur lui, l'a beaucoup, beaucoup marqué. J'en ai connu beaucoup comme ça, qui étaient... Je me souviens d'une jeune fille qui était bouleversée par ça et en révolte constante. L'idée d'avoir à accepter l'idée d'un Dieu qui, gratuitement, de tout temps, aurait voué les uns à l'enfer et les autres au salut, le révolter. Ce qui fait qu'il a été en rupture de banc avec sa famille, qu'il a coupé ses études à un moment donné, qu'en plus, comme vous avez dit, il est gay. Ça lui a reposé un poids de culpabilité sur les épaules très très grande. Il faisait les études de piano, il va les interrompre de nouveau. Donc c'est quelqu'un un petit peu de fragile, si vous voulez, de pas. Il n'est pas tout d'une pièce, mais personne n'est tout d'une pièce. Hein, pas. Donc voilà.
Et alors, ce Tim, il voue une admiration considérable, et bien avant de le rencontrer, à ce pianiste. Non seulement il a tous ses enregistrements, il a lu tout ce qui a été écrit sur lui, et il cherche tout de suite, évidemment, à se rapprocher de son idole. Alors, vous avez fort bien dit qu'au début, le pianiste est un peu sur le reculoir. Hein. Et puis, les deux sont assez prisonniers de ce que vous avez dit aussi, c'est-à-dire des idées toutes faites sur les Français. Hein, Tim reproche sans cesse à Alexis d'être continuellement moqueur, ironique... De décrier les choses à la manière française, et Alexis lui reproche aussi d'avoir les idées toutes faites de certains Américains. Il se défendait. Bon, et bien alors, au début, bon, oui, il y en a un qui est très entreprenant, l'autre qui est très sur la réserve, mettant sans cesse en avant son âge, sa vieillesse.
Ce qui est vrai, d'ailleurs.
Ce qui est probablement vrai, mais alors, ce qui n'a aucun effet, d'ailleurs, sur Tim. Ça même, ça l'agace que l'autre lui parle tout le temps de son âge, etc. Parce qu'il voit que, par ailleurs, quand il est au piano, eh bien, Tim qui obtient l'autorisation de se mettre dans un coin du... D'abord, il est preneur de son au départ, donc et puis après, quand il est dans le Vermont, il se met dans un coin de l'atelier et il est bouleversé par le jeu qui, au fil des mois, devient de plus en plus somptueux et profond à la fois. Et alors, donc là, il y a un rapprochement. Alors, Tim est gay en effet. Et le pianiste est aussi homosexuel.
Oui, oui. Il a vécu pendant 30 ans avec quelqu'un qui est mort. Donc il est tout seul, il n'a plus personne. Mais c'est vrai que ce qui d'abord les rapproche, si vous voulez, ça, c'est la musique. Hein. Tim, qui faisait du piano à ce moment-là, qui imaginait de faire une carrière de piano, quand il entend jouer Xavier... Il renonce définitivement en disant « Je pourrais jamais jouer comme ça, je pourrais pas. » Donc c'est pas la peine, il quitte. Il va devenir ingénieur du son, effectivement, en quittant la musique, comme il avait quitté un peu l'université. Et puis, il ira même jusqu'à faire le voyage de Paris pour entendre Salgavo jouer Xavier. Donc il le suit à la trace, mais un peu comme ces jeunes gens qui ont une énorme admiration pour quelqu'un, qui sont capables de traverser la mer, de voyager en charter pour entendre leur groupe, pour entendre... Xavier, c'est un peu son idole, hein. C'est un fan. Et Xavier se défend de choses qui n'existent pas, c'est ce que lui dit Tim. Hein. Tim lui dit, mais enfin, quand même, on dirait que vous avez peur, mais peur de quoi hein. Il n'est pas question de d'amour physique, il n'est pas question d'un truc, foutez-moi la paix avec tout ça, laissez-moi vous aimer à ma manière. Moi, j'aime l'homme que vous êtes, j'aime le pianiste que vous êtes, et ça, petit à petit, ça va quand même finir par rentrer dans la caboche aussi de Xavier, hein, il va accepter effectivement ça, hein. D'autant qu'il est assez seul et qu'il n'a personne... si vous voulez, le livre, qu'est-ce qui me faisait remarquer, ben, c'était une critique, c'est Michel Gazier qui me faisait remarquer, que la rencontre décisive avec Tim avait lieu au moment où Xavier se réveille d'un long rêve où il a rêvé de Marc, de son ancien compagnon. Et elle me faisait remarquer en disant, on avait l'impression que Tim vient prendre la relève, que c'est comme une relève qui se produit, il arrive à ce moment-là pour prendre la relève. Pour aussi une autre raison, si vous voulez, c'est que aucun de nous, ni un écrivain, ni un pianiste, ni l'homme qui vous parle, ni vous, si nous n'avons personne à qui parler, non pas parler de la pluie et du beau temps, mais je veux dire, envers qui nous poser en vérité dans la profondeur, la vie est vaine, elle est perdue, si vous voulez, nous n'arrivons pas, ça pourrit intérieurement. Et ce que Tim lui offre, malgré sa jeunesse, c'est la possibilité de reparler en vérité, si vous voulez, de parler du fond, et beaucoup plus que de musique, ou de choses, ou de bateaux, etc., mais de parler de fond. Et c'est ce dialogue-là que Xavier n'avait plus, qu'il va voir aux États-Unis avec lui et avec Sarah. Si vous voulez, ce sont les deux personnages qui vont lui rendre la parole, mais en lui rendant la parole, vont lui rendre aussi, malheureusement, la mémoire.
C'est ça. On va venir tout de suite à cette question de la mémoire. Je dirais que les relations avec Tim, il faudrait parler des relations avec Sarah aussi. Elles sont quand même... elles sont très ambiguës, mais comme toutes les relations entre les personnages du livre. Parce que, bien sûr, laissez-moi vous aimer à ma manière. Mais quand même, il y a malgré la sensibilité qu'il affiche, et malgré la distance qu'il prend, il y a des moments où, chez le pianiste... C'est un vieux monsieur. D'ailleurs, Sarah lui dit à un moment, elle l'utilise dans un fax, vous êtes un vieux monsieur. Bon. Il y a quand même, dans la façon dont il observe, dont il regarde vivre Tim, qui est la jeunesse même, il y a quelque chose de sensuel dans son regard.
Ah ben, bien sûr, mais c'est l'ultime refuge de la vieillesse, c'est le regard. C'est tout ce qui vous reste à un moment donné. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre à part regarder? Mais oui, bien sûr. Mais c'est vrai pour le paysage aussi. C'est vrai pour la lumière. C'est vrai que tout ce qui lui reste, c'est un peu, je dirais, un état contemplatif de la vie. Il en est réduit à regarder un peu la vie. Tout ce qu'elle peut plus faire, si vous voulez. Il y a une scène très significative, mais qui est tout à fait... C'était quelqu'un qui était nerveux, Xavier étant jeune, on l'avait surnommé le chat noir, qui bougeait très vite, qu'elle est venue. Avec l'âge, il peut difficilement bouger, il marche, mais avec difficulté. Il connaît cette angoisse des gens d'un certain âge, si vous voulez, d'être bousculé, de mal tomber... Donc de se méfier, il vit dans un état d'appréhension, etc. Et c'est vrai que Tim lui donne la possibilité d'une intrépidité à côté qu'il n'a plus. C'est un peu comme s'il regardait sa propre jeunesse sur un écran, si vous voulez. Faire des mouvements quand on n'a plus peur, bouger à toute vitesse, faire du bateau, etc. Évidemment qu'il y a une ultime, je dirais, volupté du regard dans la vieillesse, hein, mais pas seulement du regard, toutes sortes de d'aspects impondérables nous rendent ambigus. Et quand vous dites que tous les personnages sont ambigus, bien sûr et heureusement, si vous voulez, un roman est toujours ambigu parce qu'un roman ne peut pas vous donner de réponse. Un roman creuse des questions, mais il n'a pas la réponse. Et d'ailleurs, heureusement, si vous voulez, qu'il y en a... Je parlais tout à l'heure avec un journaliste à qui je rappelais, si vous voulez, vous prenez un grand roman quelconque, vous prenez Anna Karenine de Tolstoï. Si vous résumez l'action, c'est une dame de la bonne société, habitant Saint-Pétersbourg, est mariée, elle a un fils qu'elle adore, et son mari, qui a une bonne position, c'est un haut fonctionnaire, etc. Elle va tomber amoureuse, elle va le tromper. Elle va vous en parler d'une histoire. C'est même pas un fait divers de journal, autant aller au théâtre. Hein. Or, le roman, c'est pas ça du tout. Le roman, c'est C'est tout ce qui se passe entre les faits qu'on peut, l'anecdote qu'on peut là-dedans. Par exemple, comme élément très significatif d'Anna Karenine, si vous voulez, le roman s'ouvre Anna Karenine chez des cousins, dans une famille nombreuse, avec beaucoup d'enfants, au milieu d'une agitation perpétuelle, une famille très heureuse, très unie. Anna vient d'arriver de Saint-Pétersbourg à Moscou, elle est bonne, elle est toute contente, elle est fêtée, il y a tous ces bruits, tous ces gosses qui courent, etc. Bien, il y a les discussions habituelles chez Tolstoï, tout ça, elle repart pour Saint-Pétersbourg, et dans le train où elle va faire la rencontre décisive, si vous voulez, des trains, au moment où le train va partir, on entend hurlements, des bruits sur les quais, et un choc de fer, un employé des chemins de fer russes est tombé sur la voie, est écrasé sur un train. Il y a même temps du brouillard, Anna ne voit pas bien, mais croit avoir aperçu le corps au moment où on le soulève, ça. Et vous vous dites, mais attention, là on est dans un autre monde. Oui, on est dans un autre monde, on est dans Anna Karenine. Parce que ça va être sa propre mort qu'elle est en train de voir. Mmh. C'est comme ça qu'elle finira. Et si vous voulez, le roman est fait de ces choses qui fait que les réponses, les faits, c'est rien. Une dame qui trompe son mari, je vous en cite 45 000 dans la littérature et 2 millions si je les connaissais dans la vie courante. Je veux dire qu'il n'y a rien de plus bête. Même si elles ont un fils ou une fille, c'est pas, ça fait pas un roman. Mais en revanche, la démarche lente, si vous voulez, le moment où on va de mort à mort, là, on est dans un autre registre qui est celui du roman. C'est pour ça que ceux que généralement qui comprennent le moins bien les romans, c'est tous les gens qui ont comme fonction généralement d'écouter ou d'interpréter, psychologues, psychanalystes, ils n'en donnent pas une. Chaque fois qu'ils parlent, on dirait qu'ils n'ont rien compris, rien, vraiment, ils passent tout le temps à côté. Parce qu'ils interprètent au fur et à mesure qu'ils lisent. Et ils croient que les faits, que l'important c'est les faits, qu'il y a un secret et qu'ils vont le dévoiler. Mais le roman dévoile tout un secret tout le long de ces pages. C'est toute une longue, longue marche. C'est pas le fait en lui-même. Il n'y a pas un secret qui serait l'explication du roman. C'est le roman qui explique le fait. Je ne sais pas comment vous dire. C'est la démarche inverse. C'est en lisant le roman qu'on sent. C'est pour ça que c'est parfois un peu mélancolique de voir que la culture littéraire, la culture du roman est en train d'agoniser, si vous voulez, parce que la télévision ayant pompé, ayant tout pris de la place des hommes, si vous voulez, la littérature, c'était lire pour rentrer en soi. C'est-à-dire que ce qui faisait la lecture, c'était qu'on refaisait le roman en soi-même et qu'il vous habitait. Or, l'image, c'est le contraire, c'est sortir de soi pour coller à une image, et donc se perdre soi, si vous voulez, abandonner une part de ça au profit de l'image. Et se perd de plus en plus cette grande culture romanesque. Hein. Et c'est pour ça que c'est si important de bien comprendre comment fonctionne un roman, qui ne fonctionne pas avec des réponses, et nous n'avons pas de réponse. Si vous me demandiez, par exemple, que raconte la Chartreuse de Parme? Oh mon Dieu, j'aurais du mal à vous le dire. Hein. Oui, raconte des histoires d'amour, c'est sûr. Raconte des histoires de pouvoir, c'est sûr aussi. Des histoires de mélancolie, d'âge. C'est dans la Chartreuse de Parme qu'il y a cette formule admirable qui nous paraît aujourd'hui hallucinant. C'est la Sanseverina qui dit à un moment donné, une femme de 30 ans n'est plus rien que dans le souvenir de ceux qui l'ont aimée dans sa jeunesse. 30 ans, vous vous rendez compte? En moins d'un siècle, une femme à 30 ans pouvait se considérer comme perdue pour l'amour, comme vieille. Vous voyez, et donc, c'est tout ça. Qu'est-ce qui fait la Chartreuse de Parme? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait le père Goriot? Ah bah, des méchantes filles qui dépouillent un papa. Oui, mais ça, c'est un fait divers. Mais tout le reste. Vous voyez, c'est le tissu du roman qui est si difficile à saisir.
Alors, nous parlons depuis 51 minutes, à peu près, et nous n'avons pas encore évoqué la figure centrale du livre. Ça s'appelle... Mamita. Alors, on s'en est approché par toutes sortes de détours. Mais, bon, vous avez dit, vous avez parlé de la remontée des souvenirs et de la mémoire. Oui, alors, sous l'effet conjugué, je dirais, si je me trompe, vous me corrigerez, d'une part du travail qu'il fait sur son jeu de pianiste, l'approfondissement de son jeu, son choix d'aller vers les œuvres de Chopin, les plus complexes et les plus difficiles. Clairement. Et d'autre part, sous l'effet également de cette amitié. D'ailleurs, elle est encore une fois tellement ambiguë on pourrait la croire paternelle chez le pianiste, chez Alexis. Et il y a une espèce d'inversion des rôles, et à la fin c'est plutôt Tim qui est son père, quoi, d'une certaine façon. L'amitié avec Tim, les conversations qui touchent à des sujets de plus en plus graves et essentiels, et puis alors celle dont nous avons peu parlé, mais qui est l'autre amie, Sarah, qui est milliardaire, qui est juive. Tout cela fait que remonte, et de façon de plus en plus insistante et de plus en plus douloureuse, parfois très douloureuse, les souvenirs de Mamita, c'est-à-dire de la mère. Alors là, quand même, quand est-on encore dans le roman ? Il y a deux questions, il faut jamais poser deux questions à la fois. Mais ce personnage de la mère, qui tient une place si considérable dans l'ensemble de votre œuvre, on peut avoir le sentiment que ça y est, vous avez tout dit, que vous avez réglé vos comptes avec elle. Or, voilà un livre qui fait près de 400 pages et où ce personnage... Alors, y a-t-il des travestissements romanesques ? Quelques-uns, probablement, mais on n'a pas l'impression qu'il y en ait tellement, justement, pour ce personnage-là, n'est-ce pas ? Et vous avez éprouvé le besoin, et le besoin dans la difficulté, et peut-être dans la souffrance, d'y revenir encore.
Oui, c'est vrai, c'est... Je ne crois pas que ce soit deux questions, c'est une seule, si vous voulez. Mais, vous dire très, très profondément quelque chose. C'était un essayiste et journaliste allemand qui avait dit à propos de mes livres qu'il existait trois versants. Il disait c'est une œuvre partagée en trois versants. La figure du père, alors il citait la tunique en famille, le crime des pères, mon père français, nanana. Et dans la figure du père, il mettait les figures de policier, le pouvoir, la réflexion sur le pouvoir, etc. Deuxième versant, l'Espagne, et troisième versant, la mer. Alors, c'est vrai que, est-ce que tout n'est pas épuisé? Et puis, vous employez cette étrange expression « régler des comptes ». J'avais pas, non seulement pas l'impression de régler des comptes, mais j'avais l'impression plutôt que c'est elle qui les réglait avec moi. Vraiment, l'impression que j'ai eu du mal un petit peu. Si vous voulez, il y avait ce que je vous disais tout à l'heure à propos des faits. Je l'ai su très tard, je l'ai su très tard, pour être franc, pas avant 40 ans, parce que j'avais pas assimilé, j'avais pas compris des choses qui s'étaient passées pendant la guerre civile espagnole. Je sentais bien, je me souviens que j'étais petit, et qu'il y avait une sorte de mouvement de terreur autour d'elle, mais vraiment de panique. On n'osait à peine citer son nom, si vous voulez. Même sa mère en avait peur. Elle a été arrêtée par les communistes, donc au moment des grandes vagues de répression au début de la guerre civile. On fusillait, mais alors de jour et de nuit, n'importe où et n'importe comment. Elle a eu très peur de mourir et elle l'a trahi. Elle a donné le nom de son ancien amant, dont elle avait deux enfants, deux fils, pour sauver sa peau peut-être, oui sûrement, enfin, etc. Il a été tué, son frère a été tué, etc. Et ça avait évidemment épouvanté, si vous voulez vous imaginer, dans ces maisons feutrées, saisies de peur, dans la pénombre, pas de chauffage, pas de quoi bouffer, jour et nuit, la terreur de pouvoir être arrêté d'un moment à l'autre, de finir dans un fossé, bon, ben c'était... Voilà. Mais ceux qui avaient surtout, maintenant je le comprends, je l'ai compris vers 40 ans, saisis de stupeur et de peur, si vous voulez, c'est que cette femme, loin de se cacher après ou d'en avoir eu honte, s'était mise à vivre avec un des chefs de la police communiste et paradait, faisait des discours, etc. Et ça, alors, ça avait épouvanté, comme si elle avait franchi une barrière, qu'elle avait quitté l'humanité pour atteindre une autre zone. Elle n'était plus dans l'humanité, elle était dans une zone. Vers 40 ans, j'ai compris ce qui veut dire que j'avais rien compris toujours, parce que... Mais j'ai compris, en racontant, si vous voulez, en mettant un pied après l'autre, comment on fait au jour le jour, qu'est-ce qui se passe exactement au jour le jour, c'est en quoi le roman est-il, parce que non seulement il ne répond pas, mais il creuse de plus en plus. Mais plus je comprenais, plus je creusais, plus ça venait épouvantable, parce que si vous voulez... Il le dit tout le temps, Xavier. Et là, je peux parler avec lui en même temps. Il n'est pas du tout extérieur. Il ne se situe pas à l'extérieur. Il ne juge pas du tout de l'extérieur. Il se sent atteint lui-même. C'est-à-dire que c'est une honte qui le recouvre, lui, comme une gale, si vous voulez. Et une culpabilité qui l'écrase, lui, si vous voulez. C'est, donc, il ne se désolidarise pas du tout de cette figure. Hein. Autant Tim est jeune et américain en plus, pour Tim c'est simple, hein. C'est le diable, dit-il, elle est satanique, elle est perverse, elle est méchante, et c'est le mal. Autant Xavier n'arrête pas de le mettre en garde en disant, il faudrait voir un petit peu de quelle année tu parles, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là, quel contexte, quelle est cette femme, donc si vous voulez, il ne défend pas du tout, il accable tout autant. Mais il éclaire différemment Xavier, par son âge, par le fait qu'il est européen, par le fait qu'il a vécu beaucoup, un truc comme ça. Donc voilà, et ça commence là. Et alors, si vous voulez, la question que pose, pas ce roman, mais que posera alors le volume suivant, et que m'a vraiment obsédé pendant 10-15 ans de ma vie, hein, c'est seulement maintenant que je peux écrire ce genre de choses. Que vous trahissiez une fois dans la peur de mourir avec la mort, ça, personne ne peut dire, moi je suis héroïque, moi je tiendrai, moi on peut torturer, moi je... ça, plus les gens gonflent, font la gonflette et plus j'ai peur, parce que ce sont ceux-là qui s'écroulent généralement les premiers. Mais personne ne peut dire. Mais en revanche, quand ça se répète une, deux, trois, quatre fois dans une nuit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est qu'une vie faite pour la trahison et pour le parjure, mais jusqu'au crime, si vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? D'où ça s'enracine? D'où sortait-elle? Comment ça s'est fabriqué? Quelle était? J'ai pas les réponses. Ça, il y aura que les romans qui peuvent me les donner. Hein. Et là, ce qui était douloureux, c'était justement non pas le fait, hein. Par exemple, le fait, il a été publié, écrit, même dans un essai qui m'a été consacré par une universitaire américaine, il y a 30 ans déjà, elle le disait, la mère livre son enfant aux Allemands, elle est bon, donc on connaissait en gros le fait, mais qu'est-ce qu'elle a fait concrètement? Comment? Comment ça se passe? Et au moment où vous vous mettez à la suivre, au jour le jour, vous vous rendez compte, d'un seul coup, d'abord qu'elle pouvait faire autrement, qu'elle avait tout le temps la possibilité de sauver son enfant. Et c'est un enfant de 9 ans, je ne parle pas de moi, elle avait les possibilités. Et qu'elle l'amène et qu'elle va le marchander, elle va le négocier contre sa vie, elle, qu'elle va le livrer. Mais comme elle a déjà livré son premier, le père de ses deux fils précédents, comme elle a... Et là, vous vous dites, on est devant quelque chose qui échappe, vous pouvez toujours, si vous voulez, les explications, ça, un psychanalyste va dire, oh, c'est une perverse polymorphe, alors comment elle est une perverse polymorphe? Ça ne m'explique rien du tout, moi, ben, elle est perverse polymorphe, et alors? C'est comme si vous me disiez, mais Anna Karenine, elle perd les pédales parce que elle a un seul coup besoin d'un homme. Oui, je veux bien. Et alors, vous pensez comme ça m'éclairera. Le roman ne reprend pas du tout comme ça. C'est comment concrètement on fait. D'autant qu'un enfant non seulement ne peut pas comprendre, il ne comprend pas, mais ne sait même pas ce qu'on est en train de faire, de quoi il s'agit, si vous voulez. Donc c'est ça qui était le douloureux à faire, voilà.
Est-ce que, en effet, c'est tout à fait ça, l'essentiel dans le roman, c'est que il enquête, quoi, au fond. Il enquête, il essaie de savoir ce qui s'est passé exactement, comment ça s'est passé. Il ne veut pas s'en tenir, en effet, aux interprétations qui sont celles de Tim ou qui sont celles de Sarah. C'est-à-dire, c'était un monstre. C'était un monstre, c'était une figure du mal. Après tout, le mal a un visage sur notre terre. On peut en prendre un. C'est une figure du mal. Pour lui, ça ne suffit pas. D'abord, il veut savoir exactement les mécanismes de ces trahisons successives. Elle passe son temps, on ne sait jamais de quel côté elle est. La seule... C'est pas une explication ni une justification, mais c'est quelque chose qui évidemment n'est pas aussi simple ou simplificateur c'est une figure démoniaque, point à la ligne. Il s'aperçoit qu'il y a une volonté de vivre qui est plus forte que tous les principes moraux que d'ailleurs on ne trouve pas, puisque vous dites elle pourrait faire autre chose et elle choisit quand même. Mais parce que c'est ce qui lui convient le mieux à ce moment-là pour continuer à vivre, pour continuer à vivre une vie de plaisir, une vie extraordinairement désordonnée dans tous les domaines. Et la conclusion à laquelle il arrive, il y a une formule, mais j'ai oublié de la noter, qui est presque la formule de Hugo, je crois que c'est dans Hernani, où « je suis une force qui va ». Elle est une force qui va, et envers et contre tout, y compris au prix de la vie de son amant devenu le père de ses enfants, y compris au prix de la vie de son fils.
Ah oui, tout à fait, mais je crois que il y avait Claude Durand, que je cite beaucoup, parce que il a été tellement proche pendant l'écriture de ce roman, si vous voulez, et qui est un homme qui a une réputation, enfin vous le connaissez, vous l'avez un peu, mais ce n'est pas un tendre, il y a même...
Pas spécialement.
C'est pas exactement... mais à un moment donné, je suis presque fâché, ah, ça, je pensais pas qu'on me ferait encore pleurer avec un roman. Je pouvais plus. Il y a un moment où j'y arrivais plus. Hein, quand même, oh, cette façon de creuser à un moment donné. Et c'est vrai que elle est probablement pas très intelligente. Elle est très intelligente dans la stratégie, si vous voulez. Elle se démerde. Il y a toujours. Probablement aucune capacité d'analyse, parce que je crois que c'est quelqu'un...
Je vous coupe. Sarah essaie de le dire à Alexis. Elle essaie de lui dire à un certain moment. Au fond, elle était sotte. Parce qu'elle, de son côté, a pris des renseignements. Et lui, non, il ne veut pas. Elle est très intelligente. Elle était peut-être sotte.
Elle était... Je pense qu'elle avait une intelligence de ruse, de combine, de machin. Mais ce qui était la seule chose qui comptait, c'était effectivement cette force de vivre, la petite vie. Et à côté de ça, rien ni personne ne comptait, n'avait strictement aucune importance, si vous voulez. Rendez-vous compte que, je vous dis, elle a toutes les possibilités, non seulement légales, mais faciles. Son fils a 8 ans à ce moment-là. Il n'a pas 9 ans, il a 8 ans. Et il lui suffit de s'adresser à n'importe quel consulat de France en disant « Voilà, rapatriez-le chez ma mère, puis c'est fini. » Non, elle le garde parce que il peut lui servir. elle préférera le négocier et le un truc plus tôt que de le sauver, si vous voulez. C'est ça, elle ne voit jamais au plus loin que ça, que son plaisir, si vous voulez, que son plaisir même immédiat. Oui, une force qui va, ça convient, ça convient tout à fait.
Il y a évidemment des scènes absolument terribles. Bon, on les a peut-être déjà lues dans des ouvrages précédents, peu importe. Quand le fils retrouve la mère, et alors c'est en quelle année ça? Il est
dans les années 53-54.
Hein. 53-54, et il retrouve sa mère à Paris. Il y a un entretien, un déjeuner, peut-être, je ne sais plus. Et il comprend très bien qu'elle lui en veut d'être en vie, d'être restée en vie. Il ne peut pas supporter qu'il soit resté en vie. Par ailleurs, elle a joué, évidemment, à la mère. Quel est le contraire d'orphelin quand on a... Il y a un mot en français pour dire la mère qui a perdu son fils. Elle a joué à cela, elle s'était acheté un médaillon, il y avait des cheveux de l'enfant, etc. Et voilà que cet enfant, devenu adulte, ressurgit. Et pendant le... C'est épouvantable. Elle va jusqu'à lui jeter des regards de haine.
Mais en un sens, ça se comprend dans cette économie psychologique et la sienne, dans ses conduites, si vous voulez. En 1942, ça se passe au 3 ou 4 septembre. Je ne suis pas fixé sur la date parce que j'aurais dû vérifier une représentation de Rigolette à l'Opéra de Paris, mais c'est le 3 ou le 4 septembre. Et quand on amène l'enfant, pour elle, il est mort. Et si jamais il n'était pas mort, ce serait effrayant, parce que ça voulait dire qu'il reviendrait un jour, et qu'il reviendrait en sachant les choses, si vous voulez. Et donc ça, elle ne le supporte pas. On sentait un désir, si vous voulez. Et d'ailleurs, elle raconte partout, évidemment, qu'il est mort. Il est mort en Allemagne, il ne reviendra jamais plus, si vous voulez. C'était une fois, mais elle l'a fait avec deux autres enfants pareils. Elle a apparemment oublié, rayé de la carte. Tout ce qui la gêne, tout ce qui est dans le truc, c'est vrai qu'il y a des moments plus rigolos dans la vie que ça ne m'amusait pas particulièrement d'affronter ce genre de regard et ce genre de propos, si vous voulez. Mais qu'est-ce que vous voulez, hein? On ne choisit pas toujours sa vie, on ne choisit pas sa mère, on ne choisit pas ses amours, on choisit très peu de choses en fin de compte. Mais c'est vrai que c'était pas très drôle parce que chaque regard et chaque réflexion était « tu n'aurais pas dû revenir ». C'était ça ce que disaient ses yeux sans arrêt. Est-ce qu'elle pensait très profondément « tu n'aurais pas dû revenir vivant ». Et c'était, comme c'était une question que moi-même je me posais, si vous voulez, comment ça se fait que j'ai survécu, elle appuyait là où ça faisait un petit peu mal déjà. Hein. C'était quelque chose de très, très truc.
Alors, ce qui est, mais vous avez fait allusion tout à l'heure, c'est encore plus troublant, ce qui rend encore... Oui, vous pouvez continuer à gratter, à analyser, il y a encore des choses à découvrir. Et on pourrait imaginer que le retour de cet enfant... lui inspire un sentiment que c'est la preuve, il est la preuve vivante de son crime, de sa trahison, tout ça, et qu'elle se sent coupable, mais c'est pas ça du tout. Et alors, ce qui est vraiment troublant, c'est que c'est l'enfant qui est, vous avez parlé tout à l'heure du sentiment de culpabilité, c'est l'enfant, et alors là, c'est le personnage, mais bon, on écoute le personnage, il est à Paris, c'est tout à fait à la fin du livre, et il s'assied dans les églises, n'est pas spécialement croyant, mais bon, il s'assied dans les églises, il n'était pas croyant, plutôt agnostique, voilà, vous dites même, il n'était pas croyant, plutôt agnostique. Alors il y a, bon, différentes églises, une qui est, il est à Saint-Honoré-des-Laux, particulièrement laide et bourgeoise et tout ça, et il n'éprouvait Il n'éprouvait qu'une fatigue inhumaine et se laissait tomber sur un banc épuisé. Il entendait dans sa tête cette question qui revenait sans cesse le hanter. Qui donc nous pardonnera ? Et ce qui devait être pardonné, ou ce qui était censé l'être, il aurait été bien incapable de le dire. Pas un péché, pas même une faute, quelque chose de plus vague, de plus obscur, une culpabilité aussi ancienne que la terre elle-même, le poids d'une création avortée. Ça, c'est un thème essentiel dans votre œuvre.
Oui, mais cela dit, pour ceux qui ont un minimum de petite mémoire biblique, tout le récit de la Genèse ne dit pas autre chose. Hein. Le récit du déluge et de l'arche, c'est ça. Hein. Et encore, le pardon intervient. On en laissera un, au moins, fabriquer son arche et naviguer, mais c'est un peu désespérant. Et ça revient avec Caïn et Abel, c'est vraiment la vieille leitmotiv de toute notre culture depuis ses origines. C'est l'origine, même celle de, je vous parle littérature, pas du tout psychanalyste par exemple, mais Freud par exemple a fait du complexe d'Oedipe un fondement psychanalytique et universel, nous sommes tous. Sauf que Magdepoux, il oublie l'essentiel du récit tragique, c'est-à-dire Laïus, le père. Il dit, il y a ma papa, il y a maman, et il y a l'enfant. L'enfant veut tuer papa pour épouser maman, soit très bien, il va épouser Jocaste, etc. Mais auparavant, il y a eu crime, et lequel ? Et comment ? C'est Laïus. Laïus a enlevé et tué, je finirai par se suicider, le jeune fils d'un de ses hôtes. Il rejettera son propre fils. Donc, il a un père qui est un criminel, et il porte sur lui le poids du crime. Oedipe ne sort pas du vide. Il a été engendré par le crime. Où la littérature est beaucoup plus lointaine et beaucoup plus forte que la théorie, si vous voulez. Et là aussi, par quoi a-t-elle été engendrée ? Comment ça se passe ? Si j'ai la force de finir un roman, je vous le raconterai après, j'en sais rien, mais ça ne sort pas du vide. Il n'y a pas quelqu'un qui sort à ce coup et il est le diable. Ouf, il n'existait pas auparavant et le voilà qui sortait devant vous, ou le monstre. Non, c'est pas ça. Elle vient de quelque part, elle vient d'une histoire non seulement personnelle, mais générationnelle. Elle porte avec elle ce même poids du crime.